Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour. Bonjour, nous sommes le mercredi 11 juin. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et c'est Cinérama qui débute avec un sommaire tout de suite, deux films chacun. Moi, j'en ai un troisième, mais qui sera vraiment en option tellement il est affligeant. Mais,
ah bon
oui.
Lequel?
C'est Endless Love, ça s'appelle, d'accord, ça sort aujourd'hui.
Moi, je vais vous parler donc de deux films de SF, donc le dernier Tom Cruise, Edge of Tomorrow, et puis un petit classique des années 80, Life Force de Tobe Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse.
Voilà, et nous sommes à la radio, mais si vous achetez le DVD, eh bien, vous pourrez voir Mathilda May.
Nu.
Pour ceux qui sont de la... pour ceux qui sont quand même...
Première apparition de Mathilde Amé, qui avait 19 ans à l'époque.
Et oui, il faut être de la génération de Mathilde Amé aussi, enfin, voilà, pour apprécier. Moi, je vous parlerai donc de The Rover, film de David Michaud, après Animal Kingdom, qui était son premier long-métrage réussi, et puis Bird People, film de Pascal Ferrand, qui lorgne du côté du film fantastique. Et puis vraiment, si j'ai le temps, je vous parlerai des clichés de Endless Love, Un amour sans fin de Shana Fest, un film qui sort aujourd'hui. C'est Cinérama.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Tiens, Tom Cruise deviendrait-il un pilier de la SF après l'étonnante réussite d'Oblivion, que je trouve très sous-estimée à sa sortie? Alors, son appartenance à l'église de Scientologie condamne-t-il l'acteur à ne participer qu'à des œuvres futuristes, genre de prédilection de la secte, entre parenthèses, étant donné que le père fondateur, Ron Hubbard, était un des auteurs phares de la littérature de SF? Alors, y a-t-il des messages cachés, des métaphores houleuses orientant ces films vers un discours pro-scientologie? On sait bien que la SF se prête à ce jeu d'ambiguïté de la réversibilité. Un même film peut paraître facho ou anard selon le point de vue que l'on en a. Les interprétations sont multiples et c'est ce qui est excitant dans ce genre très ouvert au fond à tout discours philosophique. Mais bon, là, je n'ai pas vu vraiment dans Edge of Tomorrow de tendance à la scientologie.
D'accord, parce que tu t'es tapé les bouquins de Ron Hubbard.
Non, absolument pas. Okay. Absolument pas, mais j'aime beaucoup Kadic dans la SF. Mmh. Mais Ron Hubbard, j'ai jamais lu. Voilà. Alors, Edge of Tomorrow n'est pas tout à fait de la même trempe qu'Oblivion, plus musclé, plus ludique. Ce film de Doug Liman propose une version SF de l'excellente comédie du regretté Harold Ramis, Un jour sans fin. Alors, dans un futur proche, la Terre est envahie par des extraterrestres, les mimiques, particulièrement belliqueux, puisque l'enjeu est l'extermination de la race humaine. Aucune armée au monde ne peut leur résister. L'une des raisons de leur invincibilité tient au fait qu'ils possèdent des pouvoirs télépathiques. Mais à présent, les armées du monde ont réuni leurs forces pour une ultime offensive à qui tout double contre les extraterrestres. C'est dans ce contexte que le lieutenant-colonel Bill Cage, donc Tom Cruise, qui n'a jamais mis un pied sur le terrain, se voit rétrogradé, d'ailleurs on ne sait pas vraiment pour quelle raison, et envoyé sans entraînement dans une mission suicide. Il meurt rapidement en toute logique, mais comme par miracle, se relève et se retrouve au début de la journée. En fait, il a été en contact direct avec l'extraterrestre et ce dernier l'a projeté dans une boucle temporelle, le condamnant à revivre le même combat indéfiniment. Une malédiction et une aubaine, puisque du coup, ce lieutenant est le seul désormais capable de venir à bout des envahisseurs.
L'invasion va échouer. Nous allons tout perdre. Comment je le sais? Je revis la même journée en boucle, sans arrêt.
Me chercher quand vous aurez fini de dormir.
Vous savez parfaitement ce qui m'arrive.
Ce qui vous arrive m'est arrivé à moi. Vous avez récupéré leur pouvoir.
Comment le contrôler?
Vous devrez mourir. Tous les jours. Continuez à venir et je vous entraînerai. Encore? Vous avez une jambe cassée.
Non, c'est bon.
Alors on reprend à zéro. Qu'est-ce que vous me cachez?
Alors, Doug Liman est un artisan à l'ancienne qui appuie ses mises en scène sur des intrigues souvent solides et des personnages consistants. C'est ce qui faisait le prix de Go, La mémoire dans la peau, et de Fair Game, le film avec Sean Penn et...
Je ne t'aiderai pas.
Qui avait été présenté à Cannes il y a 2 ans, d'ailleurs. Et bah, en cela, en fait, il se distingue des Michael Bay, Simon West et disons 90% des Yes Men du circuit hollywoodien. Edge of Tomorrow s'appuie sur une idée de départ tellement délirante et excitante que l'on en attendait beaucoup. Le résultat, bon, en dépit de ses réelles qualités d'écriture et d'un filmage lisible, déçoit. Au bout de 30 minutes, bah, le récit fait un peu du surplace, n'innove plus, et le seul suspense consiste à se demander ce que Doug Liman va bien pouvoir raconter pour nous empêcher de sommeiller. En fait, c'est rageant, d'autant que le film est très loin d'être mauvais, mais le seul enjeu du film devient comment gagner la guerre contre les méchantes bébêtes venues de l'espace. Alors, construit selon les codes des jeux vidéo, cette production SF, un rien belliqueuse, reste agréable à visionner, passé la frustration de se dire que les auteurs sont sans doute passés à côté d'un chef-d'œuvre. Un tel concept pouvait imbriquer aussi bien des réflexions philosophiques sur l'espace-temps digne d'un roman de K. Dick que développer un film conceptuel sur la notion de mise en scène et de récit. Comment refilmer à chaque fois les mêmes situations et imaginer une alternative à chaque dérive du récit ? Voilà, ce qui aurait pu aboutir à du René dopé à la testostérone se transforme en un banal film de SF que je trouve bien emballé, réalisé avec soin et interprété par des comédiens impliqués. Tom Cruise est très bien, et puis comment elle s'appelle déjà l'actrice
Je ne l'ai pas encore vue.
Emily Blunt est très très bien aussi, hein, très musclée d'ailleurs, je trouvais qu'elle a... Elle s'est étoffée là, avec l'âge. Alors, les effets spéciaux aussi sont remarquables. Et comme d'hab, la 3D n'apporte absolument rien de neuf et de vertigineux. Enfin, c'est quand même dommage hein, parce qu'on se tape à chaque fois les films en 3D et je trouve que ça n'a aucun intérêt. Alors voilà, je trouve que c'est un bon divertissement du samedi soir. Mais on est très loin, dans des films un peu similaires, entre autres L'Armée des 12 Singes, Dark City... ou même Terminator, qui, à mon avis, avait une réflexion un peu plus poussée sur le sujet. C'est un peu dommage, hein.
Ouais. Alors, toi, tu l'as vu en version originale sous-titrée.
Version originale et en 3D, donc c'est au Gaumont Comédie, Gaumont Multiplex, et je suppose au CGR aussi.
Oui.
Parce qu'on ne le dit jamais, le CGR.
Ah mais, non, on l'oublie.
On l'oublie.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Pascal Ferrand fait partie de ces metteurs en scène discrets qui prennent le temps de monter des projets, alors soit parce qu'on ne les produit pas, hein, Duperron s'en était plaint ouvertement, à qui on lui demandait sans cesse de revoir son scénario, et c'était les chaînes de télé qui lui disaient « mais écoutez, non, je pense que cette scène va être un peu trop violente ». Soit donc parce que ça prend du temps de faire émerger un film. Alors on peut penser qu'après le succès de L'amant de Lady Chatterley, elle a eu moins de mal que d'autres à trouver un financement. Son scénario est pourtant inhabituel dans le cinéma français puisqu'il fait intervenir des éléments fantastiques. Et pas qu'un peu. À Roissy, dans l'un de ces grands hôtels internationaux proche de l'aéroport, il y a Gary, un Américain qui bosse dans la Silicon Valley et qui est soumis à de très fortes pressions professionnelles. Alors, il devait aller à Dubaï pour une importante réunion, mais n'a pas bougé de son hôtel. Sa vie professionnelle et familiale n'a plus grand sens, il se sent comme un sucre qui fond, dira-t-il à sa femme. Et puis il y a Audrey, une jeune femme de chambre qui est-elle contrainte de travailler pour financer ses études. Elle a aussi envie d'aller ailleurs, on le sent, on le perçoit, et leurs trajectoires parallèles vont finir par se rencontrer lors d'un événement surnaturel qu'on est bien obligé de taire sous peine de massacrer la vision du film et d'enlever toute surprise. Car des surprises, ce film de Pascal Ferrand en contient quelques-unes.
Ça fait 10 fois 60, ça fait 10 heures par semaine. La vache, 10 heures de trajet par semaine, 40 heures par mois. Service.
Everyone's gone berserk, running around like rabbits with their heads cut off.
Chicken.
Alors, le talent de la réalisatrice est de filmer un environnement hyper réaliste comme un aéroport et ses alentours et ce qu'il contient de possible hein, dans un monde globalisé et de nous emmener ensuite dans un autre film où l'on prend de la hauteur. Un aéroport est un parking à avions d'où débarquent beaucoup de voyageurs d'affaires. Et Gary est un de ceux-là, un type qui réussit dans son job mais qui n'en peut plus. Alors on cherchera vainement des raisons, hein. On ne les trouvera pas forcément. Son associé se soucie des contrats qui vont leur échapper, son avocat de la tactique à adopter et sa femme se soucie eh bien, de sa peine à elle. Mais lui, on s'en fout un peu. Raison de plus pour stagner dans cet hôtel. Alors on reste longtemps avec Gary, un peu trop peut-être quand il s'agit pour lui d'expliquer tout à sa femme par visioconférence. Alors face à ce monde globalisé, réaliste, on en trouve un autre plus léger, celui d'Audrey. Alors, il est réaliste aussi, mais d'une autre manière, une étudiante qui gagne son argent en faisant les chambres de cet hôtel Hilton, qui fait son travail consciencieusement, mais avec une certaine légèreté, devinant au travers des objets laissés, des draps froissés, des conversations, les vies de ceux qui passent, qui voyagent, qui sont dans un autre monde. Alors, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas d'angoisse, mais elle les vit autrement. Quand Gary n'en peut plus de la pression, elle a plutôt l'embarras du choix, puisqu'elle est encore dans l'âge des possibles, et c'est un titre d'un précédent film de Pascal Ferrand. Alors, quand survient l'élément fantastique, on n'est pas étonné qu'elle puisse s'y complaire, à elle de vivre une légèreté sur une musique très, 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 très marquée. This is ground control to Major Tom. To ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. Alors une séquence qui aurait pu être très, très casse-gueule, on reconnaît le Space Oddity de David Bowie, mais c'est une séquence qui nous maintient en l'air, un souffle de fantaisie, de poésie. Alors pas étonnant que Pascal Ferrand ait apprécié le film de John Gong-ho, de The Host, où un élément fantastique, en l'occurrence une bestiole hein, dans la rivière, révélait les peurs et les désirs de chacun. Pascal Ferrand se place dans notre monde, décide d'arrêter le temps un petit moment, à défaut de nous faire prendre l'avion. Elle nous fait quand même prendre un peu de hauteur donc, avec Bird People.
Mais elle avait déjà fait son premier film qui s'appelait Petits Arrangements avec les morts. Alors, je m'en souviens plus très bien parce que je l'ai vu à l'époque, mais j'avais énormément aimé. Il y avait un côté comme ça, film choral, et puis il y avait des éléments un peu fantastiques, surnaturels qui émergeaient dans ce film. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai. C'était son premier film qui était vraiment remarquable.
Et son deuxième aussi, hein. L'âge des possibles, j'en ai un bon souvenir parce qu'en plus, je l'ai vu quand j'étais effectivement aussi étudiant et c'était qu'avec des étudiants, notamment du TNS de Strasbourg.
Voilà, c'était ça. Ouais. Voilà, et elle a fait quoi, 5-6 films? Parce qu'après, les T-shirts de la Rage, c'est 4
voilà,
en fait.
Oui,
hein.
C'est son quatrième. Hein, vraiment,
ouais, une réalisatrice assez rare finalement.
Donc Bird People, c'est à voir. Il y a quelques... Enfin, il y a de la durée qui est peut-être un peu mal gérée, mais sinon, donc ça, c'est à voir au cinéma.
Mais quand c'est asiatique, on dit que c'est bien, c'est planant. Et puis quand c'est français, c'est mal géré.
Quand on joue avec une papaye, longueur. C'est un peu mieux. Oui. C'est Cinérama, on continue.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et là, c'est un autre décor. Hein. Son premier long métrage, Animal Kingdom, nous avait donné l'occasion de voir le talent de ce réalisateur, David Michaud, qui avait signé un film de gangster, juste ce qu'il faut de distant avec son sujet. Le voici qui revient avec un film de genre encore, mais cette fois-ci, c'est le film post-apocalyptique.
C'est fini pour toi. Je le sais. Quoi que vous pensez, ça fait bien longtemps que c'est fini pour moi.
Nous sommes dans notre monde à peu près, disons 10 ans plus loin, 15 ans, 20 ans, on ne sait pas. Et ça n'est plus la Coupe du Monde du Brésil, ça on en est sûr, mais celle plutôt du Qatar, hein, dont on aurait pu parler. Mais la crise est vraiment passée par là et il n'y a plus grand-chose. En tout cas, en Australie, c'est le désert culturel, économique et y compris affectif. Alors il reste quelques mines qui attirent des hommes désespérés et violents. Alors quand des malfrats en fuite passent par le bouge où le solitaire Eric s'apprêtait à cuver et que ces malfrats lui volent sa voiture, eh bien rien ne va plus. C'est comme si on lui volait son seul bien. Il se met alors à la recherche de ceux qui lui ont causé du tort. C'est un road trip dangereux pendant lequel il rencontrera des personnages étranges, une galerie de portraits déroutante. Alors, chaque arrêt dans une ville est l'occasion pour Michaud de dépeindre des hommes et femmes singuliers. Autant dire qu'il n'y a rien de gay hein, quand on a affaire à des gueules, voire des sales gueules. Des laids, des méchants, des pouilleux, un nain irascible, une tenancière de bordel flippante. Et j'en passe. Michaud, qui a écrit le scénario, ne s'est pas privé de radicaliser son propos. Alors Eric, interprété par Guy Pearce, a tout perdu et se met en tête, coûte que coûte, de récupérer sa voiture. Ceux qui se mettent sur sa route en subissent les conséquences. Alors il rencontre quand même une personne avec qui il peut échanger autre chose que des baffes ou un coup de feu. Et surtout, il rencontre Ray, interprété par Robert Pattinson, jeune homme blessé et laissé pour mort lors du premier règlement de compte, y compris par son frère.
Allons-y! Allez, vite, vite, maniez-vous! Faites demi-tour! On fait pas demi-tour, il est mort!
Comment ça, il est mort? C'est mon frère!
Ça va aller. Cet homme est votre ami?
Dis-moi, où est ton frère?
Il est parti loin, vers le sud. Je vais vous mener à lui, je vous le promets.
Ton frère t'a abandonné en train de mourir. Il t'a laissé ici à ma merci. Si tu n'apprends pas à te battre, tu ne vivras pas longtemps.
Ça, c'est Tom Cruise qui aurait pu dire ça, hein, enfin, franchement. Donc c'est une phrase hein, qui résonne tout le long de ce trajet, car les individus qu'on croise dans ce monde où l'économie a broyé la société ne se laissent pas faire. La relation entre Eric le volé et Ray, le voleur blessé, est d'abord une relation de soumission, puis au fil des épreuves, chacun, en quelques mots, quelques attitudes, va nouer une autre relation. Alors non, ils ne seront pas amis, mais pourquoi pas complices. Si le film ménage des scènes ultra-violentes, il offre aussi des scènes où tout se vit au ralenti, comme s'il n'y avait plus rien. Alors le décor y est pour beaucoup, hein, filmé dans les régions arides de l'Australie. The Rover, qui veut dire le vagabond, instaure une monotonie brisée par quelques bribes de langage et une violence brève et efficace.
Dieu veut pas qu'il m'arrive du mal.
Dieu en a rien à foutre de toi. La seule chose qui compte à cet instant, c'est que moi je suis là. Et pas lui.
Il y a quelques phrases comme ça, parce que c'est pas très bavard. Hein. Alors rien à redire sur le jeu d'acteur, comme sur le casting. Les deux acteurs principaux s'en tirent très bien, surtout Guy Pearce qui crève l'écran, hein, avec une colère contenue. Quant à Pattinson qui joue un simplet, on lui donne l'excuse de ne pas avoir eu d'autres repères que ce monde-là. Hein. Il joue un personnage finalement qui a toujours connu ce monde. Alors on disait, on voulait rapprocher ce monde-là à la Mad Max, mais franchement...
Oui, c'est ce que j'ai lu, non, mais ça n'a rien à voir en fait.
Aucun
c'est
rapport,
parce que c'est australien, semble-t-il,
je pense. Ouais.
C'est tout.
C'est assez ténu comme rapport. Donc The Rover est un film assurément violent, à la mise en scène soignée, froide, qui laisse entrevoir les forces destructrices de terreur contenues dans notre système socio-politique. C'est un peu ce que voulait montrer en tout cas David Michaud, un réalisateur franchement à suivre.
Ah bah Animal Kingdom, c'était vraiment une révélation. Hein. Mm. Un film vraiment remarquable, puis certainement l'un des films plus originaux, on va dire, sur une sorte de petite mafia locale. Mm. C'était vraiment...
Enfin, partagé entre réalisme et puis un vrai film de gangster.
Oui, enfin, puis ça change un peu des visions un peu idéalisées, et un peu avec des paillettes de Scorsese.
Oui, oui, c'est, voilà, oui.
C'était vraiment, c'est vraiment super bien. Mm.
Voilà, et bien The Rover, ça passe au Diagonal en version originale sous-titrée, et me semble-t-il au Gaumont en VF, mais vous avez entendu la VF, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
Et s'en passera aisément.
Sur Divergence FM.
Alors passons à une sortie DVD Blu-ray. Hein. Mine de rien, Life Force, rebaptisée là pour l'occasion l'Étoile du Mal pour sa sortie DVD Blu-ray, offre sur un plateau une combinaison de talents borderline assez déroutante. Un cas d'école en soi. Alors on ne peut pas parler de ce film sans dire un mot de l'aventure surréaliste des cousins Menamen Golan et Yoran Globus, fondateurs de la défunte Canon. Enfin, ils ne sont pas vraiment fondateurs puisque la Canon existait dans les années 60, ils l'ont plutôt reprise. Et producteur hallucinant d'éclectisme. À ce degré-là, c'est même quasiment du suicide. Apparu dans les années 80 sous l'effigie donc, de la Canon, les deux Lascar produisent aussi bien d'un côté... Alors, Invasion USA, Delta Force, Portée disparue. Alors, trois films, on va dire, de propagande avec Chuck Norris. Mais aussi American Warrior, The Barbarians, Kalidor, Over the Top. Enfin, toute une liste de... et j'en passe, et des meilleurs. Et je n'évoque même pas des nanars encore plus incroyables. Les aventures d'Hercule avec Lou Ferrigno ou Matahari aussi. Alors, d'un côté, il y avait ces films-là, on va dire, des films d'action ou populaires ou des gros
avec
nanars.
Des gros muscles, ouais.
Et puis de l'autre côté, les œuvres d'art. Enfin, ce que eux, pour eux du moins, parce qu'ils ont produit Barfly de Barbet Schroeder, Fool for Love de Robert Altman, The Bayou et Runaway Train de Konchalovsky, Les Vrais Durs ne Dansent Pas de Norman Mailer, et aussi, cerise sur le gâteau, et là c'est pas une blague, King Lear de Jean-Luc Godard. D'ailleurs, la légende voudrait que les deux nababs israéliens aient dîné avec Godard et qu'ils aient signé le contrat sur un bout de nappe. Ce qui, vu leur mégalomanie, leur excentricité, puis le caractère aussi de Godard, n'aurait rien d'étonnant et pourrait même s'avérer véridique. Enfin bref, alors signer un film de Tobe Hooper n'est pas non plus une mince affaire. Hein. Le génial réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, avant d'accepter des projets foireux type Crocodile plus tard, il avait la cote. Son précédent film, Poltergeist, produit par Spielberg, n'a certes pas très bien marché en dépit de ses réelles qualités. C'est un produit hybride à mi-chemin entre l'univers merveilleux du Papa D.T. et le penchant pour l'horreur tordue du réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Mais Hooper a encore un nom à l'époque. Même si l'ombre omniprésente de Spielberg sur le tournage de Poltergeist a eu tendance à le discréditer. Et là, il se voit proposer une grosse production de 25 millions de dollars par la firme Canon, qui était quand même une firme indépendante. Hein. C'est pas la Warner, c'était vraiment...
Vu ce qu'elle produisait, non. En fait...
Bah alors, une occasion inouïe pour lui d'aller jouer dans la cour des grands et de se faire définitivement un nom, on va dire, aux côtés de gens comme Carpenter, Cronenberg ou De Palma. Alors, la suite, on dira que Tobe Hooper, il n'a jamais eu la carrière de ces réalisateurs-là, en fait. Hein. Alors, à la base, Life Force est une adaptation d'un roman de Wilson Collins, Les Vampires de l'Espace. Alors, enfin, le dernier talent logique de l'aventure n'est autre que le scénariste Dan O'Bannon, le géniteur d'Alien et réalisateur du presque mythique aujourd'hui Retour des morts vivants. Alors Life Force est une sorte de synthèse de toutes les obsessions et thèmes du célèbre scénariste ayant fait ses débuts sur Dark Star de Carpenter. Alors Life Force possède un script assez de fou furieux, hein, cause à mon avis de l'échec du film à l'époque et des très mauvaises critiques qui ne virent qu'un fourre-tout, un mélange absurde d'horreur, on va dire gothique, et de SF pompé sur Alien. Alors le scénario est un peu étrange quand même. Alors l'équipage de la navette spatiale Churchill découvre un impressionnant vaisseau extraterrestre comportant 3 corps enfermés dans des cercueils de verre. Alors en ramenant ces corps sur Terre, l'équipage fait une grossière erreur. Lorsqu'ils se réveillent, ils vampirisent les êtres humains, leur soutirant non pas leur sang, mais leur force vitale. Pour survivre, les victimes encore vivantes se voient obligées de vampiriser donc d'autres personnes à leur tour. La pandémie est alors inévitable, sauf si l'on arrête la source qui a pris l'apparence sublime du corps de Mathilda May nue.
J'ai remarqué sur votre porte, professeur Falada, que votre domaine est la biochimie. Mais je crois comprendre que vous vous intéressez surtout...
À la mort, colonel Kane, c'est exact. Thanatologie, c'est le nom savant. Oui, oh, je sais que pour vous, la mort est un simple problème bureaucratique. Qui a tué, quand, pourquoi, une énigme à résoudre, j'ai raison.
Et pour vous ?
Eh bien, je suis fasciné par la mort elle-même. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous mourons ? Qu'est-ce qui se passe après que nous sommes morts ?
Vous parlez de la vie après la mort ?
Oui.
Y en a-t-il une ?
Oui, je crois qu'il y en a une. Si mon hypothèse est exacte, alors la force vitale se conserve toujours en toute chose, même après la mort.
Et vous croyez que cela correspond à ce qui s'est passé ici ce soir ?
Oui. Oui, je le crois, oui. Mais je crois que cette fille, cette créature, a drainé l'énergie, la force vitale, partiellement de Bukowski et totalement du garde. Cette fille n'est pas une fille. C'est un être étranger à cette planète et à notre forme de vie. Elle est donc très dangereuse.
Alors le mélange entre épouvante gothique et science-fiction moderne, s'il a froissé les esprits à l'époque, n'a pas pris une ride aujourd'hui. Au contraire, le film se bonifie avec le temps. Alors les remarquables effets spéciaux de John Dykstra, la superbe photographie du grand chef-op Alan Hume et l'interprétation sans faille, notamment du trop rare Steven Reisbeck, concourent à la réussite flagrante de ce film injustement méprisé à l'époque. Alors l'originalité du propos, hein, en dépit de quelques longueurs, est soutenue par la mise en scène énergique et parfois insolite de Hooper, qui n'hésite pas à invoquer les fantômes de la Hammer dans un cadre ultra-moderne de SF adulte. Le résultat est stimulant et confirme tout le bien que je pense du réalisateur depuis longtemps. Son goût pour les cadrages insolites, son penchant pour l'humour noir et les éclats gore, parce qu'il y a un peu de gore dans ce film. Alors cette manière presque unique d'imbriquer des univers opposés au sein d'un même récit font de Tobe Hooper un réalisateur à part, un peu oublié à cause d'une filmographie, je dirais, un peu en dents de scie, hein, qui alternait. Il a réalisé de vrais nanars, mais aussi des chefs-d'œuvre. Hein. Respect à vie pour Massacre à la tronçonneuse, qui est un film absolument génial. Et puis un film où Mathilde Amet, alors âgée de 19 ans, se promène nue pendant tout le film, enfin, surtout là, les 45 premières minutes. Ouais. C'est un plaisir pour les yeux qui ne se refusent pas.
Hein. Je crois comprendre que vous vous intéressez surtout...
À la mort, colonel Kane, c'est exact. Thanatologie, c'est le nom savant. Oui, oh, je sais que pour vous, la mort est un simple problème bureaucratique. Qui a tué, quand, pourquoi, une énigme à résoudre, j'ai raison.
Et pour vous ?
Eh bien, je suis fasciné par la mort elle-même. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous mourons ? Qu'est-ce qui se passe après que nous sommes morts ?
Vous parlez de la vie après la mort ?
Oui.
Y en a-t-il une ?
Oui, je crois qu'il y en a une. Si mon hypothèse est exacte, alors la force vitale se conserve toujours en toute chose, même après la mort.
Et vous croyez que cela correspond à ce qui s'est passé ici ce soir ?
Oui. Oui, je le crois, oui. Mais je crois que cette fille, cette créature, a drainé l'énergie... La force vitale, partiellement de Bukowski et totalement du garde. Cette fille n'est pas une fille. C'est un être étranger à cette planète et à notre forme de vie. Elle est donc très dangereuse.
Non, enfin, on peut dater le film.
Oui,
enfin,
mais
en
c'est
entendant
moi,
cette...
je confirme, c'est quand même une fille. L'écran, c'est bien une fille. Alors, le film est disponible chez l'éditeur Sidonis en DVD Blu-ray. La copie est absolument magnifique. Seul petit hic, la version française, comme le film n'est pas sorti dans son intégralité, le film bascule sans cesse entre la VO et la VF la version française. Voilà. Ah. C'est quelque chose d'assez récurrent dans chez les éditeurs de DVD. Je ne sais pas trop pourquoi. Et on peut penser que c'est juste les passages inédits, mais en fait, il y a plus de bascules que ça. En fait, le film bascule sans cesse.
C'est un film hybride alors.
Mais je le conseille. Et juste pour un photobooper, vient de réaliser un film. Alors je sais pas, c'est sur le jeans, les jeans.
Ah oui.
Sur les esprits. Et c'est un film produit qui trouve plus de sous aux États-Unis par l'Arabie Saoudite. Et qui devrait sortir en France, selon les rumeurs.
On suivra ça. C'est Cinérama qui va bientôt se terminer.
Cinérama sur Divergence FM.
Alors, bienvenue au Royaume des Clichés avec un film qui s'appelle Amour sans fin de Shana Fess. Ça sort aujourd'hui, on va faire vite. C'est l'histoire de deux adolescents, David et Jade, qui s'aiment beaucoup. Hein, mais le père de la jolie fille préférerait qu'elle fasse médecine plutôt qu'elle se laisse aller avec le bellâtre. Alors, on a le cliché de la fille de bonne famille qui ne pense qu'aux études et qui s'est exclue socialement. Hein, elle ne discute pas avec ses camarades, c'est comme ça. Elle est belle comme tout. Limite, elle devrait manger un peu plus de bœuf et de patates pour prendre un peu de poids. Et puis, lui, le bellâtre, eh bien, il est fort en mécanique, et contre toute attente, c'est un mec d'une famille modeste, mais qui a des super résultats au test d'entrée en université. Il a vraiment tout pour lui. Le père de la famille, de la fille, est chirurgien et obsédé par la future carrière de sa fille, ne supporte pas la mort d'un de ses fistons, alors ça revient. Et le fiston qui vit encore, hein, le seul vivant, eh bien, il le rejette. Donc c'est le gros salaud du film, ça on a bien compris. La mère, elle est gentille, et par convention pour son milieu, elle a renoncé à sa carrière d'écrivain, on en pleurerait presque. Et puis ce qui est insupportable, c'est de rendre le garçon comme un parfait gendre idéal, alors toujours prompt à prendre la faute pour ses camarades. Quand ils se font choper pour quelque chose, c'est lui qui reste en dernier pour se faire prendre par la police. Il est modeste au possible, il a la gentillesse, et avec ça, il couche pas le premier soir. Voilà. Film inintéressant.
Le deuxième quand même, non ?
Hein ? Le deuxième ou troisième peut-être. Bon, ils font ça après, je crois, dans le salon. Si j'ai bien vu, c'était dans le salon quand même des parents. Alors, film inintéressant, variation autour de Roméo et Juliette. Quelques plans s'en amusent hein, d'ailleurs. C'est une vision sur la névrose de la réussite de la classe bourgeoise américaine, complètement ratée à force de pousser les clichés. C'est un film pour les pré-ados, hein, mais qui aurait pu être un peu plus subtil.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Et nous passons cette fois-ci à l'agenda qui est plutôt court avec ce dimanche 15 juin à 18h au Diagonale, la Louse Prodigiosa. C'est une soirée dédiée au poète Federico Garcia Lorca. Et puis il y a aussi Dragon 2. L'histoire de Croque-Mot à 11h15, ce sera...
C'était très bien le premier.
Ah oui, très bien.
C'est une très bonne surprise.
Ah, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on l'annonce, hein, 11h15, donc ce dimanche, avec les lunettes 3D. Et puis, l'Utopia, le jeudi 12 à 20h, oui, ça j'ai oublié dans l'ordre. Donc, c'est une séance suivie d'une rencontre sur le thème accouchement physiologique, mode d'emploi. C'est en présence de la réalisatrice de L'Arbre et le Nid. Et puis on termine avec l'Utopia le mardi 17 juin à 20h, le Cercle de Silence. C'est une rencontre avec Jean-Baptiste Libouban qui a participé en 2010 aux Jeunes devant l'Assemblée nationale contre la politique migratoire de la France et le projet de loi Besson. Et puis donc il y aura le réalisateur donc, de ce documentaire Cercle de Silence. Et on n'oublie pas aussi le week-end du cinéma belge, c'est à Frontignan, au Ciné Mistral, c'est bah, plusieurs films belges et puis on peut manger des moules frites. Voilà, c'est le principe.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Alors, Tom, notre stagiaire réalisateur avait déjà perdu deux doigts, enfin, comme dans le monde des Yakuza la semaine dernière, il en a perdu deux autres aujourd'hui. On espère le voir la semaine prochaine avec sa main gauche, au moins, pour pousser les boutons. Merci à lui quand même. Manu, 24 notes secondes, c'est
eh ben, Philippe de Broca, génial réalisateur du Magnifique, notamment.
Il n'y a que des combines, voilà. Il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.